Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est entre tes mains que je les remets. Et même cette heure qui suit, entre tes mains, enfin, que tu atteignes tes buts et tes objectifs, pas les miens, tes objectifs. Fais-les pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde. J'aimerais nous inviter à lire trois portions des Écritures. Les deux premières portions tirées du même livre, celui d'Esther. Si vous avez votre canevas de notre séminaire, c'est vrai sens du mot, la clôture, pour ne pas dire la série sur les gâteaux. Nous abordons le troisième point qui est le dernier, faveur et zone de turbulence. Faveur et zone de turbulence. Je dois déjà d'entrée dire, ce message ne vient pas pour réconforter seulement, pour encourager, mais ce message aussi vient surtout pour déclarer la fin d'une zone de turbulence. La fin alors. Lisons Esther au chapitre 3. Lisons d'abord le premier verset et puis nous lirons du verset 8 au verset 11. Esther chapitre 3 du premier verset. Les versets 8 jusqu'à 11. Et cette première portion commence avec l'une des phrases que l'on voit souvent dans la Bible, après ces choses. Et après ces choses, ça introduit deux sortes d'idées chaque fois. Il arrive quelquefois, c'est que la chose qui précède, elle est bonne, et celle qui commence, elle est moins. Mais il arrive quelquefois aussi que celle qui a commencé était moins bonne, et celle qui a introduit à tout autre visage. Après ces choses, après qu'Esther ait été élevée, après que la visitation de Dieu ait été son partage, après que la jeune orpheline, esclave dans un pays étranger, qui vivait dans toutes sortes de situations difficiles, ait vu sa condition changer parce que la faveur l'a visitée et qu'elle a commencé à jouir des choses auxquelles elle ne s'attendait pas. Le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, la Gagite, et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Verset 11. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part. Parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tout le peuple, et n'observa point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Waouh. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Je peserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Il veut montrer au roi combien cette loi inique va lui rapporter. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, la Gagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, écoutez, l'argent t'est donné, mais aussi ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Toujours Esther, chapitre 4, verset 1er au verset 9e. Et puis nous lirons aussi 15 à 16. Esther 4, 1 à 9, et puis 15 à 16. Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Ordre avait été donné, pouvoir avait été donné à Aman de faire ce qu'il voulait à ce peuple. Déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout arrivé l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Il jeûnait, pleurait, s'est lamenté, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Les pauvres, elles ne savent pas qu'elles parlent aussi à une juive. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour les couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Comment peut-il accepter cela? Alors Esther appela à Tak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et les chargea d'aller demander à Mardoché ce qu'était cela et d'où cela venait. Tak se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Soulignez bien le mot massacre. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il les montrât à Esther et lui fît tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Tak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Versets 15 et 16, Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi malgré la loi. » Et j'aime la dernière phrase, « Si je dois périr, je périrai. » Nous terminons avec Genèse 48 au verset 20, qui aura toute son importance vers la conclusion. Genèse 48, verset 20. Jacob bénit les deux fils de Joseph ces jours-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu les traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Mais soulignez bien la dernière phrase, « Et il mit Éphraïm avant Manassé. » Dites avec moi, « Il mit Éphraïm avant Manassé. » Je prie qu'à la fin, que quelqu'un apprenne à mettre Éphraïm avant Manassé. Les deux premiers textes que nous avons lus, comme je l'ai introduit presque tout à l'heure, parlent de la fin d'un moment d'accalmie, la fin d'un moment de paix, la fin d'un moment de jouissance, mais aussi et surtout le début d'un moment d'anxiété, d'un moment de trouble, d'un moment d'incertitude et surtout d'agitation. Combien quelquefois on aimerait que la calme dure toujours. Combien quelquefois, quand une bonne saison commence et elle est inaugurée, on aimerait bien qu'elle soit infinissable, qu'elle ne s'arrête jamais. Et surtout si avant cela, vous avez connu des moments de difficulté. Surtout si avant cela, comme Esther, vous avez été secoué, enchaîné de votre pays, amené dans un pays étranger. Appelé à être une citoyenne de seconde zone. Appelé à ne pas avoir droit à certains privilèges parce que les autres vous considèrent comme des sous-hommes. Mais combien c'est glorieux, c'est merveilleux quand Dieu vient par sa faveur vous visiter et que cette condition change. Dès que Esther est devenue reine, ce n'était pas seulement sa fierté. Tous ceux des Juifs qui savaient qu'elle était des leurs se sentaient élevés avec. Tout allait bien jusqu'à ce que bondissement. Le roi décide de nommer quelqu'un à des hautes responsabilités. Et quand cette nomination s'est faite, ni Esther, ni Mardoché, ni les Juifs ne savent que c'est quasiment une page qui se tourne. Les temps de paix, quiétude, les temps de jouissance va bientôt être un vieux souvenir. C'est comme si Esther ainsi que son peuple étaient en train de goûter un bonbon et ils ont pris goût. Et subitement, ce bonbon succulent est arraché de leur bouche. Chèque en blanc est donné à cet homme mauvais appelé Aman. De faire dans un laps de temps du peuple ce qu'il veut. Et quel peuple? Le peuple de Dieu. Esther ainsi que Mardoché et le peuple derrière lui peuvent dire, fini la récréation. Les temps qui commencent, c'est ce que j'ai appelé une zone de turbulence. Parler des zones de turbulence, c'est parler d'une réalité attachée à la navigation aérienne ou à l'aéronautique. Quand vous volez en avion, il y a des endroits déjà connus d'avance où les pilotes ou les personnels navigants savent, et des fois ils vous le diront, il vous faut serrer vos ceintures, parce que nous passerons à un endroit où l'avion va subir des secousses. Zone des turbulences. Quand vous passez par ces zones, certains qui ne sont pas forts vomissent. D'autres ont des vertiges. D'autres même, à cause de cette zone de turbulence par laquelle ils sont passés, ils atterriront bien, mais ils auront presque toute la journée malade. Difficile à attaquer la journée. Quand viennent les zones de turbulence, il y a une agitation bruyante, désordonnée de l'appareil. Agitation. Ça, c'est la première caractéristique. Quand vient la zone de turbulence, il y a perte du contrôle, quelquefois momentané, de l'appareil et de sa direction. Ah, je me souviens une fois, en décembre 2010, nous allions avec le prophète Kawata en Afrique du Sud. Et nous sommes passés par une zone de turbulence. On nous avait déjà prévenus, mais je n'ai jamais connu quelque chose comme ça. Les lumières même éteintes dans l'avion. La pression est partie. L'avion est descendu subitement. On avait un grand groupe de mamans et de papas de combats spirituels. Et nous avons entendu tout ça. Et quand ça s'est calmé, les personnels navigants venaient en anglais parlant « cool down, une disait « cool down, tu n'as tout coupé. » Quelqu'un dit « liwo yo kango na sango, liwo yo na masina, yo yo na makolo. » Liwo yo koma on a sanef. Perte de contrôle. Quoi? Les ondes de turbulence provoquent des dégâts dans la structure de l'appareil. Comme je l'ai dit, ça entraîne des troubles physiologiques. Les turbulences sont dues à plusieurs choses. Je n'aimerais pas aller dans ces domaines dans lesquels je ne suis même pas spécialiste. Certains disent que cela est dû à un relief. Au sommet des montagnes, à des endroits où, par exemple, il y a un lac qui émet des gaz, à quelques endroits où il y a des forêts, à un endroit où il y a, entre deux pics, il y a une vallée, on ne sait pas expliquer. Mais les zones de turbulence peuvent aussi être dues à des zones nuageuses. Et on dit surtout les nuages, qu'on appelle les cumulonimbus, en grande quantité, en grand nombre, sont à la base des zones de turbulence. On parle quelquefois de turbulences artificielles, mais quelquefois de turbulences naturel. Il semble des turbulences qui sont causées par l'avion lui-même. Certains avions, plus ils sont grands, plus leurs ailes vont jusqu'à un certain niveau. Avec les contacts avec le vent, à certains endroits où il y a peu ou pas de vent, ça peut aussi provoquer des zones de turbulence. Et par rapport aux zones de turbulence dans la vie de l'enfant de Dieu, de celui sur qui la faveur de Dieu a commencé à se manifester, ou se manifeste, j'aimerais, si le temps me le permet, mentionner ce matin 8 choses. La première, c'est que les zones de turbulence, ce sont des moments que même les plus fidèles à Dieu peuvent connaître. Les plus fidèlement attachés à Dieu. Le plus consacré, le plus saint, le plus craignant Dieu peuvent connaître cela, peuvent passer par des situations. Et là, je me réouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Ne jugeons pas toujours, un peu comme les amis de Job, qui ont comme théologie, tout moment de souffrance, toute zone de turbulence cache les péchés. J'aime pas des gens à l'église trop saints. Ils voient les péchés partout. Maman Makambo, ils ont commis des oies normales. Sinon, c'est tout qu'on est sango. Faut aller à l'état d'âme, n'a eu état d'âme. Même les plus fidèles à Dieu peuvent connaître cela. Psaume 34, verset 20, l'abbé dit les malheurs. D'autres versions disent l'infortune. Une autre version dit encore des situations dérangeantes et désagréables atteignent souvent les justes. Mais j'aime la seconde partie. Mais l'Éternel en délivre toujours. Ah, j'ai souvent connu des situations où je me demande qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi. J'ai entendu une femme qui venait de perdre son enfant subitement commencer à crier Kolotoyo Kanakaborite. Seigneur, on ne s'est pas entendu comme ça. Difficile à avaler, difficile à cerner. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 2, la Bible nous montre que même les plus fidèles peuvent passer par les zones de turbulence, mais elle nous montre aussi les limites de ces zones. J'aime. Il dit, si tu traverses les eaux, c'est-à-dire tu pourras les traverser. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Certaines fois, Dieu n'enlève pas les eaux agitées. Il nous laisse passer par ces eaux, mais il nous accompagne. Et des fois, quand il nous accompagne, nous ne les sentons pas. Ah, vous avez lu sûrement cette belle histoire de cette personne qui marchait avec le Seigneur et qui voyait et ses deux traces de pas et les deux traces de pas du Seigneur. Et puis il arrive à un moment, il ne voit que deux traces sur un long chemin. Et il revient, il pose au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire ?» Je comprends, c'était le moment le plus difficile. Je comprends, ça veut dire que tu m'avais lâché, tu m'avais abandonné. Le Seigneur dit non. C'était tellement dur pour toi que je ne t'ai pas laissé marcher, moi je t'ai porté. Et les traces que tu vois là-bas, ce sont mes traces. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et il ajoute, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Le fleuve restera fleuve, avec ses vagues, son orgueil. Mais il ne pourra jamais t'engloutir. Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Non pas que le feu aura perdu sa capacité à brûler, mais je vais gérer le feu. Et la flamme ne t'embrasera pas. Des fois, faveur et son de turbulence cohabitent, partagent même espace. Et Joseph a été l'un des spécialistes à voir ça. Il voyait à la fois la faveur se manifester, mais il descend des turbulences. La Bible dit, il est vendu par ses frères. Mais la Bible dit, la main de l'Éternel était sur lui. Il lui fit trouver faveur. Faveur et zone de turbulence. Son maître lui accorda tout. Quand il veut se réjouir, zone de turbulence. La femme de Potiphar vient créer des problèmes. Et il arrive en prison. Il veut se décourager. On le nomme chef en prison. Faveur. Raison des turbulences. Mais j'aime souvent dire, si les deux peuvent cohabiter, la faveur de Dieu dans notre vie est toujours un résident permanent, mais la zone des turbulences est un locataire qui finit par partir. La faveur de Dieu est un résident permanent avec un visa à long terme. Deuxième des choses, c'est que l'homme, comme dans Jean chapitre 9, verset 1 à 2, quand il passe par la zone de turbulence, il veut toujours connaître la cause, l'origine, l'explication et surtout la finalité. Cet homme qui passait par cette zone de turbulence, aveugle de naissance, est-ce lui ou ses parents qui ont péché? C'est dans la nature de l'homme, on veut savoir. Pourquoi Dieu permet-il ceci? Quelle est la finalité? Il y a 20 ans, je finissais d'enseigner. Un soir, à l'église de la Borne, j'ai été en contact avec un jeune homme quand je l'ai rencontré et qu'il m'a posé une question. Je n'avais pas de réponse. Je ne pensais pas lui donner l'âge qu'il avait. C'était un bout d'homme. Je ne pense pas qu'il avait 1m30. Il était courbé, bossu. Et il me disait qu'il avait 18 ans. Il est dans sa famille et dans son quartier. On ne l'appelait pas un homme, on l'appelait une chose, Eloko. Et j'avais prêché ce jour-là sur la bonté de Dieu. Quand j'ai fini, il dit, est-ce que moi aussi je peux dire que Dieu est bon? Pourquoi toi, Dieu t'a créé normal? Pourquoi moi, je dois être comme ça? Je l'ai dit lors de l'une de mes vieilles prédications, il y a des pourquoi pour lesquels on n'aura pas de parce que sur terre. Quand nous passons par les zones de turbulence, nous voulons comprendre. C'est sanforme, bien. J'encourage, mais j'aimerais dire, il arrivera toujours, nous atteindrons un degré d'incompétence. S'il est bon de se poser des questions, il est aussi important de savoir que Dieu n'explique pas tout et surtout il n'explique pas tout du coup. Il y a des moments où non seulement Dieu ne nous dit rien, mais il s'est tait et même il s'est tait complètement. Il y a des moments où la seule réponse que Dieu vous donne, c'est soit le silence ou c'est l'écho de votre question qui vous revient. Comme à Gethsemane, est-il possible que tu éloignes de moi cette coupe? Il y a des moments où Dieu est silencieux. Tellement silencieux que son fils qui a toujours été en communion avec lui dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, il arrive que Dieu lâche quelquefois ceux qu'il aime. Mais quand il est fait, même quand vous ne comprenez rien, sachez qu'il a quelque chose. J'ai un ami qui a vécu une belle histoire. Il m'a dit, il a pris son taxi-bus. Même pas taxibus, on appelait cela Kimalumalo à l'époque, ça a beaucoup disparu. Et il était quasiment sur le dernier siège, centre-ville. Les transports étaient terribles et difficiles. Ils arrivent vers là où il y a les loupiots. Deux policiers arrêtent et disent, nous avons une urgence. Trois personnes doivent descendre, nous on doit monter. Il dit, priez parce qu'il avait un rendez-vous important. Non, pas moi surtout. Il dit, étonné, la première personne à être pointée, you. Il dit, quelle malédiction. Et on l'a fait descendre. Il dit, j'étais né de nouveau chrétien, je n'ai pas béni Dieu. Il dit, pasteur, j'ai maudit ces militaires. Il dit, je suis resté 30 minutes à l'arrêt, pas d'autre bus, une heure. J'ai commencé à faire les pieds. Il dit, je fais les pieds, j'arrive à Kitambo. Juste au niveau des gens 23, je vois un grand attroupement. J'arrive, je vois ce qui m'a loué, qui a fait un tonneau. Et je vois, on est en train de dire, il y a eu 4 morts, dont 2 policiers. Il a vu ce policier en train d'être sorti sans vie. Il dit là, les gens étaient étonnés sur la grande route. Il s'est mis à genoux. Il dit, Zambé, merci, les policiers, à Zupla, Sinangaye. Des fois, nous voulons tout comprendre au début. Mais Dieu ne nous explique pas tout au début. Quelqu'un dit, nos contretemps peuvent nous amener à un grand rendez-vous avec Dieu. J'ai lu cette merveilleuse histoire et j'ai même suivi un flash sur Internet de cet homme qui a été sauvé le 11 septembre avec ce qui est arrivé avec le 2 tours. Il avait un fils de 4 ans qui chaque matin le laissait partir et lui, il n'a jamais amené à l'école. Mais ce matin-là, ce fils a commencé à pleurer. Coûte que coûte, c'est papa qui devait aller le déposer à l'école. Mais si je veux, j'ai une réunion. Il a dit, papa, tu dois. Sa femme lui a dit, écoute, vas-y. Il est allé déposer. Il a connu un retard de 15 minutes. Quand il est rentré, il a vu le 2 tours tomber. Quand il est revenu, il a dit à son fils, c'est toi mon sauveur. Dis à ton voisin, Zamba l'ekibiso mayel. Angai, n'egman tsanga, bo inga fona kufakaka. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Dans les jours qui viennent, tu rencontreras quelqu'un. Quel est quel homme? Et tu diras que Mansang a été au brouillon. Laisse Yannick. Qui sait Dieu sait qu'il a une espérance de vie de 5 ans. Dieu ne veut pas qu'après 5 ans, tu deviennes veuve. Dieu te prépare quelqu'un, longévité plus, plus. Et puis charme, et puis tendresse. Un jour, toi-même, dans la sincérité, tu diras, « Eh, n'engai na zanga yo. » Troisième principe, c'est que les zones de turbulence, ce sont des moments où notre foi, notre assurance et nos certitudes sont ébranlées. L'homme en général, même les croyants, il aime ce qu'il maîtrise. Il aime ce qu'il contrôle. Il aime savoir, tel que je suis là, après, qu'est-ce qui va se passer. Mais quand viennent les zones de turbulence, nous ne maîtrisons pas. Nous savons au moins d'où nous venons. Et nous savons tant soit peu où nous sommes, mais nous ne savons pas où nous allons. Qu'est-ce qui va venir dans la suite? J'aime dans 1 Samuel chapitre 22, au verset 3, les jeunes David qui venaient de rentrer dans un moment de faveur. Il a tué Goliath. Il est devenu l'homme le plus célèbre de la ville. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. C'est le meilleur moment d'être David. 1 Samuel 22, au 3e verset. Et subitement, les ondes de turbulence rentrent. Celui qui devait préparer ses oreilles à écouter les cantiques doit désormais exercer son coup à éviter des lances. Parce que Saül commence à lui lancer des flèches. Il se demande qu'est-ce qui arrive. Comment Dieu peut ouvrir une porte? Et puis après, des choses négatives arrivent. Et puis subitement, on lui fait comprendre qu'il doit fuir parce que Saül a décidé de les tuer. Et 1 Samuel 22 dit, il alla se cacher dans la caverne d'Adulam. J'aimerais dire, celui pour qui on a chanté peut le lendemain se retrouver dans la caverne d'Adulam, sans lit, sans drap. C'est la même personne. Mais j'aime ce que le verset 3 dit. Il alla déposer son père et sa mère chez le roi de Moab. Il dit, garde-les-moi jusqu'à ce que je sache ce qui va arriver dans la suite. J'aime le moment où seul Dieu sait ce qui va arriver. Même celui qui marche avec Dieu ne sait pas. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. J'aimerais te dire ce que tu ne sais pas, ton Dieu sait. Zone de turbulence. Il y a quelqu'un ce matin qui passe par une zone de turbulence. Tu pleures, tu te poses des questions. Il y a quelqu'un ce matin, quand je priais, Dieu m'a dit, il vient à l'église parce qu'il doit venir. Bof. Mais il se demande, ça vaut encore la peine de croire. J'aimerais te dire oui. J'aimerais crier encore oui. J'aimerais te dire oui. J'ai parlé, je priais cette semaine avec mon épouse et nos 3 filles présentes au pays et nous pleurions tous au salon. Je pense à cette zone de turbulence où le jeune Roland Dallois qui Dieu a ouvert les portes, qui prêchait l'évangile, quand dimanche il finissait de prêcher, des milliers regardaient la télévision, des milliers suivaient la radio. Et puis un moment a commencé. Je me souviens ce matin où je me réveillais, j'allais sous les manguiers, ou sous les petits palmiers chez nous, je mettais mon petit tabouret avec quelques livres et la radio. Les heures paraissaient des siècles. Je savais d'où je venais, je savais où j'étais, mais je ne savais pas où j'allais. Je me posais la question, qu'est-ce qui m'arrive? Mais le Dieu du ciel, qui comme pour un examen, il avait des fuites, mais il ne le donne pas. Il voyait déjà Philadelphie. Et des fois, ce qu'il sait, il ne nous le dit pas. Combien ça aurait été merveilleux que Dieu nous donne des fuites. Il vient comme un qui nous dit, petit Joseph, l'obitango kobima, bayayana yo bako beta yo makofi, bako boaka on a liboulou ya potopoto, mais quand on a petit, na simbi nyonso. Si ma bakote ka on a Égypte, au komaboy, mais petit kobangate, qui mou konze sa na sima. Tant pour au komakuna, moi si mou konse no makam, mais petit na simbi nyonso. Petit kobangate, yo sa RDC, lo kwa makas. Les combles, souvent, il dit rien. Ah, s'il les disait, ça serait comme une anesthésie, hein. Même quand on te jetterait dans la cité, on dit, bo bo kanayebi. Bo te kanayebi. Koselanga makambo komona. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est silencieux, mais il n'est pas moins travailleur. Il contrôle cette zone de turbulence. J'aimerais te dire comme un prophète, il y aura après ces choses. Quatrième principe, c'est que les ondes de turbulence sont des moments de révélation. Les ondes de turbulence sont des moments de révélation. Et si elles nous révèlent plusieurs choses, Les ondes de turbulence nous révèlent principalement deux choses. La première, c'est que les ondes de turbulence nous révèlent nous-mêmes. Il arrive des fois, soit nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes, ou soit une faible opinion. Mais les ondes de turbulence nous révèlent ce qui est caché en nous. Quelqu'un dit, si vous placez un verre avec de l'eau et vous donnez un coup, ce qui va sortir du verre, ce qui était dedans. De la même manière, les ondes de turbulence révèlent les choses cachées. Qui était là, mais qui avait besoin de secousses. J'aimerais faire une prière. Beaucoup ne diront pas amen. Seigneur, quelqu'un qui ne se connaît pas, laisse-le passer par la zone de turbulence. Qu'il ait une révélation de lui-même. Élie, il avait une trop haute opinion de lui. Il pensait être fort, inébranlable. Et la preuve, il venait de lancer un défi à plusieurs des prophètes. 450 Baal, 400 d'Astarté. Et il est au summum de sa popularité. C'est comme si on pouvait chanter pour lui comme les Quinois chantent. Yonani. Olunga Eli. Yonani. Fort. Et puis Jézabel vient lui dire, si demain à 7 heures tu es vivant, les héros de Dieu, forts et inébranlables, qui avaient un calme olympien, se met à fuir. Mais j'aime surtout, dans 1 Roi 19, verset 4, quand il fuit, écoutez ce qu'il dit lui-même, je ne suis pas meilleur que mes pères. J'aime bien quand l'évaluation ne vient pas de l'extérieur, c'est nous-mêmes. Nazaranangamuto. Nazaranangamakasi. Nazaranangamakasi. La zone de turbulence nous révèle nous-mêmes. Quelqu'un dit les meilleurs conseillers sont ceux qui ne vivent pas la situation. Ils ont toujours des solutions bien faites. Un moment, dès qu'on parle de la zone de Yembarara. La Mélagaï attend. On appelle ça aux deux journées Nangaï. Deux journées Nangaï. Natatawana. Les zones de turbulence nous aident à nous connaître. Même Jésus-Christ, les héros qui a calmé la tempête, les disciples l'ont vu à Gethsemane et ils étaient étonnés. Écoutez ce qu'il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Venez rester avec moi. Et la Bible dit, il éprouvait des angoisses et des tristesses. Et les disciples l'ont entendu prier comme jamais, s'il est possible. Que cette coupe s'éloigne de moi. Viens, on va s'en aller pour vous. Mais au-delà des faiblesses, les ondes de turbulence nous révèlent les forces qu'il y a en nous qui sont cachées. La zone de turbulence par laquelle Esther est passée lui a fait découvrir elle-même. J'aime l'instant où la petite orpheline devenue reine, découvre elle-même une vertu qui était toujours en elle, mais qu'elle n'a jamais exploitée. Je prierai. Je jeûnerai. J'irai me présenter devant le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. La zone de turbulence révèle que cette jeune fille avait une dose de courage qu'elle n'utilisait pas souvent. Il arrive des fois, il faut des temps difficiles pour révéler les grandes choses qu'il y a en nous. C'est quand on presse l'olive que l'huile précieuse sort. Des fois, nous voulons l'olive, l'huile plutôt, sans que les grains soient concassés. Les hauts fourneaux font tomber le scorie et révèlent la brillance de ce métal. Une jeune femme américaine, à moitié du siècle, il y a deux siècles, noire comme tout autre, subissant les épreuves d'une loi inique, où quand vous montez dans ce bus, vous n'avez le droit de vous asseoir que s'il n'y avait aucun blanc qui manquait une place. Dès qu'un blanc monte, vous devez vous lever. Il s'appelait Rosa Parks. Et ce jour-là, elle a pris son bus fatigué quand un blanc est monté. Il lui a dit, lève-toi. Il lui a dit, nous sommes fatigués de vous laisser des places dans le bus. Et ça a été le point de départ d'un grand changement aux États-Unis. Les zones de turbulence révèlent ce que vous êtes. Et quand Dieu veut vous aider à faire sortir ces choses, des fois, il laisse que vous passiez par cela. Deuxième des choses que les zones de turbulence font, les zones de turbulence vous révèlent les dieux que vous connaissez théoriquement. La nouvelle naissance et l'attachement à Dieu n'est que le début d'un processus. C'est comme quelqu'un qui rentre à l'école, mais à l'école maternelle. Il faut arriver jusqu'à l'université, avoir des connaissances, partir de l'alphabet, partir du comptage jusqu'aux racines carrées. Vous connaîtrez la grandeur de Dieu. Les zones de turbulence vous aident à connaître votre Dieu. À la fin, lorsque elle, c'est-à-dire Esther et le peuple, ont vu Dieu changer la condition, quand la joie a changé de camp, quand Aman a été pendu, quand l'édit a été annulé, quand le roi a dit à Mardochée, à Esther et au peuple, il dit, vous-même écrivez une autre loi. Ils ont connu dans la pratique le Dieu qu'ils connaissaient en théorie. J'aimerais dire à quelqu'un, ces chemins par lesquels tu es en train de passer, Dieu veut simplement que tu les connaisses mieux. 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 Quelquefois, quand Dieu veut que le Dieu d'Abraham devienne aussi le Dieu d'Isaac, un Dieu hérité, il laisse Isaac passer par des situations où Dieu cesse d'être le Dieu d'Abraham, le Dieu qu'Abraham lui a dit. Il devient son Dieu à lui. Quand Dieu veut que vous puissiez vous-même l'expérimenter, il permettra à Gédéon de passer par des temps difficiles. Gédéon qui commença à dire, où sont ces choses dont nos pères nous parlaient? Il te rendra vainqueur sur la Madianite. Tu ne croiras plus à Dieu parce que les autres l'ont dit. Tu croiras à Dieu parce que toi maintenant tu l'as vu. Esther ainsi que son peuple ont vu les choses changer. Écoutez ce qu'Esther 8, 6 à 17 dit. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire dans chaque province, dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et j'aime la suite. Et beaucoup de gens d'entre le peuple se firent Juifs. Car la crainte des Juifs les avait saisis. Et quand Esther, Mardochée, les autres ont vu cela, les zones de turbulence étaient derrière. Ils pouvaient chanter l'éternel Dieu. Ce qu'il dit. Et il réalise. C'est à la fin de sa zone de turbulence que le patriarche dira dans Job 42, verset 5, « Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. » J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu me dit de te dire, il cessera d'être un Dieu audible pour être un Dieu visible. Il n'aura plus seulement une renommée dans ta vie. Il deviendra une réalité pratique. J'aime l'instant où l'homme de Dieu dit, je sais en qui j'ai cru. Je n'ai plus besoin d'être informé. Cinquième principe, c'est que les zones de turbulence ont trois sources principalement. Les diables, les hommes et quelquefois nous-mêmes. Les diables, les hommes et quelquefois nous-mêmes. Esther et son peuple ont été plongés dans une zone de turbulence par un homme mal intentionné. David a été plongé dans une zone de turbulence par quelqu'un qui lui en voulait. Et son seul tort, ça avait été d'avoir sauvé la nation et d'être devenu plus populaire que lui. Joseph a été deux fois plongé dans des zones de turbulence par des personnes qui lui en voulaient, ses frères. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le. et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et puis, ils ont altéré cela, ils l'ont vendu. Plus tard, une femme qui voulait l'amener dans les péchés, et lui, il refusait. Le diable peut aussi être à la base de nos zones de turbulence, et ça, Job l'a connu. Le seul tort de Job, c'est d'être spécial, et Dieu s'en vante. Et le diable dit non. Laisse que je puisse les toucher jusqu'à ce point. J'aime ce que mon distingué confrère, le pasteur Maurice Mouéou, enseignant à Mercredi à la Borne, il a dit cette vérité profonde. Il a dit l'histoire de Job, la réalité se passe, mais les tentatives d'explication, c'est sur terre. Vous savez, c'est nous, en lisant la Bible, nous connaissons tous les portraits. Nous savons que le diable est allé, il a demandé. Lui, la partie, là, il ne connaissait pas. Lui, il a vu seulement la série d'événements pour laquelle il n'avait pas l'explication cachée. J'aimerais aussi dire deux petites vérités avant de passer au sixième principe. Deux vérités intermédiaires. La première, c'est que Dieu a des zones de turbulence qu'il permet et pour lesquelles il les laisse arriver. Il y a des zones de turbulence que Dieu laisse et permet. Il est fait comme dans l'histoire de Job. Je ne voudrais pas trop m'attarder à cela. Mais il y a des zones de turbulence que Dieu permet pour ceux qu'il aime pour réajuster leur comportement, pour les corriger. Nous en avons parlé tout au long de la semaine. Quand Dieu est la source d'une faveur, il donne un but. Pourquoi je t'ai donné ceci? Et qu'est-ce que tu dois en faire? Et quand il arrive que celui à qui il a fait une faveur commence à vivre autrement que selon la faveur, Dieu peut laisser des zones de turbulence arriver. Dans 2 Samuel chapitre 15, versets 1 à 4, j'aimerais bien lire cela. David aussi connaît une zone de turbulence. Il est fort possible que quelqu'un ce matin passe par ses chemins. 2 Samuel chapitre 15, après cela, il y a toujours un après cela. Absalom s'est procuré un char et des chevaux. Et 50 hommes qui couraient devant lui. Il s'éleva de bon matin et s'était au bord du chemin. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu ? » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël. » Absalom lui disait, « Vois ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans les pays ? Tout homme qui aura une contestation à un procès viendra à moi et je lui ferai justice. » Qu'est-ce qui se passe ? L'ex-chantre de l'Éternel, attaché à Dieu, pour qui Dieu a destitué Saül, parce qu'il voulait un homme s'aimant la justice, faisant ce que lui il veut, il devient roi, mais il s'éloigne des priorités de Dieu. David est devenu un jouisseur. En ce moment, David a la plus grande quantité de femmes. On dit qu'on a des harems. Il passe son temps, non pas à gérer les choses de la cité, mais à s'amuser. L'injustice prend place. Quand Dieu regarde sur terre, il voit ses royaumes, il dit, mais ça c'est la caricature de ce que j'ai voulu. Point de justice. Celui qui doit établir la justice ne le fait pas. Celui qui doit donner l'impulsion ne le fait pas. Dieu lui a donné les postes, Dieu lui a donné la faveur, mais voilà. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Et pour tout celui qui ne gère pas la faveur comme Dieu l'a voulu, Dieu soit suscite ou laisse des Absalom venir. J'aimerais aller plus loin pour dire, quelquefois il n'y a pas mieux que le fouet d'Absalom pour que le roi corrompu redevienne celui qu'il était avant. Les Absalom sont les meilleurs antidotes contre la distraction, contre l'égarement. Seigneur, je prie que quelqu'un reste sur le chemin sans le fouet d'Absalom. Mais je prie aussi, si quelqu'un est tellement distrait, Seigneur, suscite Absalom. Et je dis Amen. Vous Ceux qui étaient au premier culte de Philadelphie peuvent se rappeler de cette prédication. 24 février 2008. Roi, mais toujours chantre. Et nous avons dit cela, j'aimerais le répéter, que quand on s'est étudié la vie de David, on s'est distingué ou réparti la vie de David en 5 temps. Le premier temps, c'est de 10 à 17 ans. C'était un petit berger et il chantait toujours. Et le chant était pour lui à la fois une nécessité parce qu'il amenait les troupeaux de son père et il avait beaucoup de temps de solitude. Il craignait l'approche des bêtes féroces et il s'est fortifié par les chants. Certains commentateurs disent qu'il dormait toujours avec sa harpe. C'est durant ces temps qu'il a composé « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il a composé un grand nombre de ces psaumes. La seconde période dans la vie de David, c'est de 18 ans à 30 ans. C'est lorsqu'il est devenu chef des troupes, sans domicile fixe, cherchant à fuir Saül par-ci, par-là. Et là, l'un des grands besoins qu'il avait, c'est d'avoir une épée en main. Mais les historiens disent, David avait 2 choses desquelles il ne se séparait jamais, et l'épée et la harpe. Durant ce temps-là, il chantait pour se fortifier. Mes destinées sont entre tes mains. Quand les ennemis m'environnent, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Il savait qu'il avait besoin principalement de l'épée, mais il disait, je ne lâcherai pas la harpe. Il chantait pour se fortifier. Et puis, un troisième temps, c'est des 30 à 40 ans, les 10 premières années de son règne. Il semble que durant ce temps, David chantait aussi beaucoup. À la fois, il travaillait beaucoup pour faire asseoir le royaume, mais à la fois, il avait encore les souvenirs frais d'où Dieu l'a tiré. À la fraîcheur des souvenirs, des fois, garde la harpe disponible. Et puis vient la 4e période, c'est de 40 à 65 ans. Les théologiens disent, c'est la période du chômage de la harpe. C'est la période des femmes. Bukamuku Atangominezale. Ce sont les années de stabilité, les années de richesse du royaume. Et lui, il dit, ce sont des années de jouissance. Ceux qui ont étudié ces psaumes, ils disent, David, durant cette période, a composé 1% de ses psaumes. Sa harpe était devenue poussiéreuse. Un décor dans sa maison. Si la harpe pouvait parler, elle pourrait dire, « Simbanga Kala, vous avez Simbanga Mingi, tant qu'on a battu la bapate. Surtout dans Zamba. Des fois, il y a qui mieux vaut que tout Zanga et peu mengai. Ah, David, tu es comme éboyé. » Mais de 65 ans à 70 ans, la harpe poussiéreuse est redevenue active. Mais entre les deux, il a fallu le fouet d'Absalom. Quelquefois, il n'y a pas mieux qu'Absalom pour que la harpe qui chômait soit de nouveau utilisée. J'aimerais dire à quelqu'un, chante toujours pour Dieu. Chante toujours pour Dieu. Sinon, il utilisera Absalom pour te faire chanter de nouveau. Absalom, on est au chômage, papa. Il y a somme. Quand tu n'avais rien, tu étais avec nous ici. Jeudi, tu étais là. Dieu t'est béni. Désormais, tu es avec nous en esprit. Pasteur, même quand vous ne me voyez pas dimanche, en esprit, je suis avec nous. En esprit, tu es avec nous. Mais dans la chair, tu es en train de jouer au tennis. Où tu es en train de travailler des abdominaux. Absalom va t'aider. Quand Absalom va venir, les culs de dimanche à 7h30, 6h45, tu es déjà là. Bah, ça n'a retard les lois. Je prie que tu ne laisses pas Dieu te faire passer lui-même par des ondes de turbulence. Parce qu'il en est capable. Il en est capable. Mais deuxième vérité intermédiaire, c'est que quelle que soit la longueur est la source de la zone de turbulence, une vérité importante à retenir. Et même le plus important n'est pas que nous passions par la zone de turbulence, le plus important c'est comment nous réagissons. Nos réactions pendant les passages dans ces moments difficiles comptent énormément. L'un des pièges des zones de turbulence, c'est le découragement. Un autre piège des zones de turbulence, ce sont des murmures, l'abandon de la foi. Asaph dira dans Psaume 73 au verset 13, « C'est donc en vain que je purifie mon cœur. » J'aime ce que l'Ecclésiaste dit dans l'Ecclésiaste chapitre 10 au verset 4, il dit, « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. » Il ajoute, car le calme prévient de plusieurs mots. Le calme. Quelle que soit la zone de turbulence, garde la quiétude. Garde le calme. Ne laisse pas ta bouche te faire dire n'importe quoi. Les sages disent, l'oppression rend insensé même les sages. Mais ne laisse pas l'oppression te voler ta sagesse et te rendre insensé. Le roi Zamarazo Salabotena Koumela. L'un des buts des zones de turbulence, surtout quand elles ont le diable comme auteur, est de nous changer, de nous défigurer, de changer notre identité. Le diable a dit au Seigneur, permets seulement qu'il passe par ses chemins et tu verras s'il ne te maudit pas en face, s'il ne deviendra pas la caricature de ce qu'il est présentement. Ah, je prie que toi et moi nous réagissons de telle sorte que Dieu soit fier et dise au diable, tu vois? Tu avais dit que si je laisse ça, rien n'est arrivé. Étends ta main, touche à ce qui lui appartient. Écoutez ce que le diable dit, je suis sûr qu'il te maudit en face. Job 1, verset 11. Lorsque nous passons par les zones de turbulence, les meilleures attitudes à avoir, ce sont celles que ces moments nous disent de ne plus avoir. J'aimerais le répéter. Lorsque nous passons par des zones de turbulence, les meilleures attitudes à avoir, ce sont celles que ce moment nous dit de ne plus avoir, nous propose de ne plus avoir. La meilleure identité que nous pouvons avoir, c'est celle que ce moment nous propose de ne plus être. Je n'ai jamais oublié cette belle exhortation du pasteur Atom Sumbuma au mois de janvier 2008, alors que nous étions en retraite et nous préparions le début de Philadelphie. J'ai jamais oublié cela. Exhortation glorieuse. Il a parlé de Joseph et de Moïse et je vais en parler en quelques minutes. Il dit, quel que soit ce par quoi nous passons, ne cessons pas d'être ce que nous sommes. Et il a cité ces jours-là, Exode chapitre 2, versets 16 à 20. Moïse avait, je peux dire, son titre de prince derrière lui. Il venait de quitter l'Égypte. Et il allait dans un endroit inconnu, ayant sa grandeur derrière. Mais j'aime ce que la Bible dit. Il rencontre des jeunes filles qui avaient l'habitude d'aller chercher de l'eau et qui chaque fois rentraient tardivement. Elles rentraient tardivement parce qu'ils avaient des bergers qui les dérangeaient. Et la Bible dit que quand Moïse arrive là, elle a combattu pour ces jeunes filles. Elle les a aidées à puiser de l'eau. Quelqu'un qui lui-même passe par la souffrance, mais il a encore le temps de servir. Ne cessez pas d'être ce que vous devez être à cause d'une situation. Et c'est même ce service qu'il a qualifié à trouver une maison, une femme et la suite. Et le pasteur Atom a cité aussi Joseph, en citant Genèse, au chapitre 40, verset 6 à 7. Il passe par une zone de turbulence. On l'a jeté en prison, mais en prison, il ne cesse pas d'être. Il voit deux prisonniers qui rentrent et qui ont l'air tristes. Il a le temps de se préoccuper de la tristesse des autres, alors que lui-même, il a un problème. Il les voit et dit, « Pourquoi avez-vous l'air si triste? » Ah, j'aurais été à la place de Joseph, je dirais, « Toi, qui m'boka, m'boka. » Moi, nana, moi, nana. Kiaku, kiaku. Mais il a le temps de se préoccuper des problèmes d'autres personnes. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en rendant ses services, il prépare les terrains pour son élévation. Ne cessez jamais d'être ce que vous devez être à cause de la zone de turbulence. Je viendrai servir Dieu même si ça ne va pas. Je chanterai pour le Seigneur même si ça ne va pas encore. Je continuerai à donner mes dîmes et mes offrandes même si Dieu n'agit pas encore. Je continuerai à gagner des âmes. Je chanterai. Je déclarerai que Dieu est bon en attendant que je voie sa bonté. Je le dirai tout à l'heure vers la fin. Dieu aime ceux qui chantent sa bonté sans qu'il soit bon, parce qu'il finit par leur prouver sa bonté. Et alors, les chants rejoignent la réalité. Les deux derniers principes, et je termine, nous allons prier. C'est qu'il y a deux choses que l'auteur de la faveur ne permettra jamais. Chaque fois que Dieu est auteur de la faveur, il y a deux choses qu'il ne permettra jamais. La première, il ne permettra jamais que son investissement se perde. Dieu a tellement investi en vous qu'il ne va pas vous lâcher. Et quelquefois, il faut les lui rappeler. Quand on sera au ciel, je poserai de bonnes questions à Moïse. Moïse a éveillé au Sambela. A éveillé au Lobelanzambe. Dieu est fâché contre Israël parce qu'Israël a péché. Dieu dit à Moïse, je vais le frapper, je ferai de toi une nation. J'ai prêché il y a 8 ans en Nairobi. J'ai introduit ce message les jours où Dieu répondit à un appel. La Bible dit, Moïse dit à Dieu, si tu les détruis, les Égyptiens l'apprendront. Et ils diront que tu n'avais pas la puissance pour les amener. Ma Bible à moi dit, et Dieu s'est répandu. Donc on dirait que Moïse parlait à Dieu, Dieu, vous en avez raison, quoi. Tu as tellement investi en moi que malgré ce que j'ai fait, si tu me détruis, c'est ta réputation qui est en jeu. Dieu a tellement investi en toi qu'il ne va pas te lâcher. Aussi, quel que soit le degré de la zone de turbulence, Dieu ne permettra jamais que cela soit au-delà de nos forces. Quel que soit ce que tu penses, quel que soit ce que je pense. Toi, tu peux dire en lingala, leke lingai. Même quand tu dis leke lingai, Dieu ne permet jamais que tu sois tenté au-delà. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, Paul dit, aucune tentation. Le terme tentation, là, veut dire secousse. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais j'aime la suite. Mais avec la tentation, il prépare. Dites avec moi, il prépare les moyens de s'en sortir. Waouh! Jamais, 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 jamais. Septième principe, je termine par là et nous allons prier. C'est qu'il y a des choses que la zone de turbulence ne peut faire dans la vie du croyant. Il y a des choses que la zone de turbulence ne peut au grand jamais faire dans la vie du croyant. Et parmi ces choses, la zone de turbulence ne peut annuler les plans de Dieu. Et retenez bien ce principe. C'est que la faveur de Dieu a une durée de vie plus longue que la zone de turbulence. J'aime beaucoup cette belle phrase que le pasteur Robert Schuller des États-Unis disait. Il disait en anglais, il dit, tough time never last. But tough people do. Les temps difficiles ne restent jamais permanents et constants. Mais les gens résistants, et ils peuvent rester. Tough time never last. But tough people do. J'aime beaucoup ce qu'on dit de mon pays, RDC. Et l'enda beta ngumba yango. Quand on était petit, il y avait des matchs de catch à la télé. Ça a disparu aujourd'hui. Quand on donnait à un catcheur un coup, il faisait ceci. J'ai avalé cela. C'est pas que le coup n'est pas coup. Mais j'ai réduit sa capacité à détruire. La plupart des fois, ceux qui ont la faveur, quels que soient les coups, tu dis, la faveur avale cela. J'aimerais dire à quelqu'un, tu subsisteras à cette zone de turbulence. J'aimerais le dire à quelqu'un, Elle sera un jour une histoire. Je suis venu déclarer à quelqu'un, tu sortiras de cette zone de turbulence, pourvu que tu restes accroché à Dieu avec un style de vie les glorifiant. Dans Genèse 41, versets 50 à 52, Joseph a les deux premiers enfants qu'il a eus en Égypte. Et il décide de les appeler dans l'ordre Manassé et Éphraïm. Dans la traduction littérale, Manassé veut dire « Dieu m'a fait oublier ma peine ». Littéralement aussi, Éphraïm veut dire « Dieu m'a rendu fécond, mon pays de la promesse ». Mais dans l'hébreu pur, souche, Éphraïm veut dire « Je chanterai à Dieu parce qu'il m'a rendu fécond ». On insiste sur l'aspect « chanter ». Et là, Joseph a établi un principe. Joseph veut dire « Je ne chanterai à Dieu que s'il fait deux choses. Un, s'il me fait oublier. » C'est pourquoi il place Manassé devant. Il faut que Dieu me fasse oublier des choses. Il faut que Dieu accomplisse des choses. Alors, je les chanterai. Quand il m'aura fait oublier et quand il m'aura rendu fécond, je les chanterai. Au soir de la vie de Jacob, Dieu inspire Jacob. Il dit, Jacob, remets les pendules à l'heure. Jacob, avant de mourir, il change l'ordre. La Bible dit, et nous l'avons lu, Genèse 48, 20, il plaça Éphraïm devant. Qu'est-ce que Jacob veut dire à Joseph? Joseph, dis-leur désormais qu'ils chantent en attendant que je leur fasse oublier des choses. Ou mieux, qu'ils chantent jusqu'à ce que je leur fasse oublier. Qu'ils chantent jusqu'à ce que je les rende prospères au pays de leurs promesses. Jacob a changé l'ordre. Joseph a voulu remettre. Dieu a dit non. Joseph laisse. C'est Jacob qui a raison. Donne-moi quelqu'un ce matin qui passe par des zones de turbulence, mais qui adhère à la doctrine de Jacob. Qui dit, je chanterai jusqu'à ce que Dieu me fasse oublier. Je chanterai jusqu'à ce qu'il me rende fécond. Et la Bible appelle cela sacrifice de louange. Hébreux, chapitre 13, verset 15, dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Sacrifier, c'est offrir quelque chose qui nous coûte. La louange la plus facile, c'est quand les poches sont remplies. La louange automatique, c'est quand on est béni. Mais la louange qui coûte, c'est quand on n'a pas encore. Mais on sait dire, je n'ai rien, mais tu es mon tout. Seigneur, je manque, mais tu es ma force. S'il y a une louange que Dieu aime consommer, c'est celle-là. C'est celle de celui qui n'a pas encore vu Dieu agir, mais il peut dire, tu es tout pour moi. Sacrifice de louange. Dans Psaume 92, verset 2 à 3, il est beau de louer Dieu, de louer l'Éternel, de célébrer son nom. Et j'aime le verset 3, d'amener les matins, plutôt d'annoncer les matins sa bonté. Et les matins, c'est quand tout va bien. Mais la deuxième partie est sa fidélité pendant la nuit. La nuit, c'est quand rien ne va. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à annoncer la fidélité de Dieu pendant la nuit? Il fait nuit, mais il dit, j'aimerais dire que Dieu est bon. Psaume 119, verset 60, le psalmiste dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Dans Acte 16, verset 23 à 25. Cette scène m'a frappé ce matin. J'ai pleuré au moins 10 minutes. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ce cœur. Ils sont allés en Macédoine sous la direction de Dieu. Dieu leur a montré un homme qui a dit, venez, prêtez-nous secours. Et ils sont arrivés. Écoutez ce que la Bible dit. Après qu'on leur eut chargé des coups, pour les Silas, se sont chargés des coups à la manière des gens de l'époque. Leur dos était labouré. Ils sentaient les conséquences des infections qui se faisaient. Ils bougeaient un peu, ça faisait mal. Chargés des coups. J'aurais été à leur place. Je ferais la louange buissonnière. Un peu comme les enfants d'Israël Vous savez, ils avaient suspendu leur arme. Comment chanter une louange l'Éternel sur un sol étranger? Mais celui qui veut voir la main de Dieu chante même dans un sol étranger. La Bible ajoute. Les geôliers les jeta dans la prison intérieure et les mit les cèpes aux pieds. Cicatrices au dos, cèpes aux pieds. Mais écoutez le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ah, les chants n'existaient pas encore. Mais ils auraient connu, ils auraient chanté cela avec moi. Seigneur, tu sembles être loin, à des milliers de kilomètres, aujourd'hui. Alléluia! Je n'ai pas perdu ma foi, je dois les confesser. Je ne sais comment les dire, ni par où commencer. Tu m'as donné, c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur, et je chante. Je te loue, malgré le temps difficile,
malgré le temps difficile, dans la peine et la souffrance.
Et je chante, et je chante.
Je te loue.
Je lève mes mains, je lève mes mains pour
t'honorer, car ta parole est
belle. Et je chante.
Et
je chante,
je te loue,
malgré le temps difficile,
malgré le temps difficile, dans la peine et la souffrance.
Et je chante,
et je chante,
et je chante,
je te loue, je lève ma main pour t'honorer,
car ta parole vraie,
car ta parole.
Et
je chante, je te loue,
malgré le temps difficile,
malgré le temps difficile,
dans la peine et la souffrance,
dans la peine et la souffrance, et je chante,
et je chante, et je chante,
je te loue, je lève ma main pour t'honorer.
Car ta parole est vraie.
Car ta parole est vraie. Et je chante.
Pour nous tous. J'ai à cœur que l'homme de Dieu va venir tout à l'heure prier pour une catégorie de personnes. Il y a plusieurs qui passent par une zone de turbulence. Certains ont cessé de faire des choses qu'ils faisaient. Certains ont cessé d'être ce qu'ils étaient. Parce qu'ils estiment que ça ne vaut pas la peine. Il y a quelqu'un d'autre qui passe par une zone de turbulence et la louange. Chanter Dieu est la dernière des choses à laquelle il pense. Il dit, si je le dis avec ma bouche, ça sera avec, en contradiction avec ma réalité. Dans sa zone de turbulence, il a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Et il est allé plus loin pour dire, mes yeux les verront. Ceux qui sont à bout, ceux qui ont l'impression que leur zone de turbulence est infinie, ceux qui veulent qu'un homme de Dieu mette la main sur leur épaule, parce que quelquefois ce n'est pas évident. On sera en train de chanter ces cantiques qui est notre hymne depuis le début de ce séminaire. Alors que nous avons tous nos mains levées en signe d'abandon et dépendance, vous allez avancer.
Bombangai.
Je passe par un temps d'agitation. Je ne contrôle plus les choses. Les moments de joie, de paix, de quiétude se sont arrêtés subitement.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.